Shalom tout le monde.
Shalom Rav.
Ben, nous continuons notre routine, c'est-à-dire que, comme chaque semaine, nous continuons l'étude du Sidour. Alors, pour autant que je sache, nous en sommes arrivés à Shema Kolenu. Me trompais-je?
Non.
Alors, nous en sommes arrivés à Shema Kolenu. Shema Kolenu est une prière assez extraordinaire. on dit qu'il faut avoir une kavana particulière quand on fait cette bracha, mais... elle vient en fin de parcours. C'est-à-dire, on a demandé, à partir de la quatrième bénédiction, on a demandé la connaissance, n'est-ce pas? C'est fini là-bas dans le coin là. On a demandé donc la connaissance, dans Ronen Adat, et puis on a demandé la teshuvah, et le pardon, et la santé, et la parnassa, et la geoula, et la justice, et le rejet des méchants, et l'ascension des justes, et la construction de Jérusalem, et la geoula finale, Mashiach, tout ça. Voilà. On a demandé tout ça. Bon, alors imaginez qu'on fasse la prière comme il faut. Dès qu'on demande, trach, c'est réalisé, immédiatement. N'est-ce pas? Alors, par exemple, vous connaissez cette histoire dans la Gemara, on raconte qu'il y avait un des Chachamim qui, quand il a prié, il a dit « Mashiva ruach », que le vent souffle, et le vent a soufflé, il a renversé des arbres. « Borid ha-geshem », il y a eu un orage. Et puis, à un moment, il a voulu dire « Mechaye metim », alors un ours est venu le troubler dans sa prière, pour que s'il ne fasse pas la résurrection des morts avant le temps. Et donc, si tout marche comme il faut, quand j'arrive à Shema Kolenu, je n'ai plus rien à demander. Puisque tout est réalisé. Alors c'est très embêtant, parce que imaginez un monde dans lequel il n'y a plus rien à demander. Tout est réalisé. Qu'est-ce qu'on perd? Non, pas forcément. On perd la prière. Il n'y a plus rien à demander, donc on n'a plus rien à demander. Donc, la prière n'est justifiée que dans un monde dans lequel il manque quelque chose. Mais dans un monde dans lequel il ne manque rien, la prière n'a plus de sens, semblerait-il. Et donc, quelque chose de terrible, c'est que si nos demandes sont réalisées, nous allons perdre la prière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non! Tu ne veux pas souhaiter que ce que tu as demandé se réalise pas. Tu n'es pas un menteur. Tu as demandé quelque chose, donc tu veux que ça se réalise. D'un autre côté, il y a un problème. C'est qu'une fois que ça sera réalisé, tu vas perdre la prière. Mais c'est terrible, parce que la prière est une expérience extrêmement profonde. Elle est une des dérivées de la prophétie. C'est la plénitude de l'homme. Alors, qu'on trouve autre chose. Quoi? Les tomates? Non, il suffit simplement de demander la prière. Ben oui, puisque que dans la prière, on demande ce qui nous manque. Et ce qui nous manquera, c'est la prière. Bon, on demandera la prière. Oui, justement. C'est donc la justice. On ne demandera plus des besoins, parce que les besoins seront déjà remplis, mais il manque la prière, donc on priera pour avoir la prière. Donc c'est ça la prière de Shema Kolenu, écoute notre voix, même quand il n'y a plus rien à demander.
On demande à Tina, pour pouvoir faire la prière. En gros, on demande à Dieu qu'il nous donne des manques, pour qu'on puisse faire la prière.
Non, il y aura un manque. Le manque, c'est le manque de prière. C'est-à-dire, on ne demandera pas, Has Veshalom, qu'il nous manque des choses qui nous sont vitales. Mais on demandera à avoir la possibilité de continuer la prière, même quand il ne manquera de rien. Alors, savoir qu'est-ce qui manquera. Il manquera autre chose de beaucoup plus important, de plus essentiel, c'est l'ascension de l'identité. C'est-à-dire, parfois, quand j'ai faim, alors j'ai besoin de nourriture. Alors, ce qui me manque, c'est de la nourriture. Mais ce n'est pas quelque chose qui me manque dans mon être. La preuve, c'est qu'une fois que je suis rassasié, je n'ai plus besoin de nourriture. Donc, c'est pas quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'accidentel, comme on dit en philosophie. Mais ce qui est essentiel, c'est l'ascension perpétuelle de mon identité, et ça, ça peut se prolonger à l'infini. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on prie donc dans la prière de Shema Kolenu. Oui. Ça peut être très bien du prat, mais le prat, il a reçu déjà tout ce qu'il avait besoin. Il a reçu dans les premières bénédictions tout ce dont il avait besoin. Dans les bénédictions d'après, tout ce que le klal avait besoin. Alors, qu'est-ce qui reste pour le prat et pour le klal? Mais là, chez Marc Oleni, c'est aussi au pluriel. Donc, il y a Elohai Netzor à la fin de la prière. Ça, oui. Mais pour chez Marc Oleni, c'est au pluriel. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça ressemble un peu au jeu des amoureux. Vous connaissez, il y a un chant d'amour dans le Tanakh. Il s'appelle comment ? Shir HaShirim. Très, très bien. Le Shir HaShirim est un chant d'amour extraordinaire, un des plus beaux qui ont été écrits dans l'histoire. Le plus beau, peut-être. Et dans lequel, il y a, en fait, si vous lisez bien le texte, vous voyez que c'est une tragédie. Pourquoi ? Ben parce qu'ils se languissent l'un l'autre, n'est-ce pas ? L'une l'autre, précisément. Enfin, c'est un couple. Et un berger et une bergère. Et ils aimeraient bien s'encontrer. Ils rêvent l'un de l'autre. Et puis, il y a un moment où le berger, il est prêt, lui. Ah, mais dis-moi, je ne suis pas encore prête. Après, vient un moment, on dit, maintenant, je suis prête. Ah, mais lui, il est parti. Ouais. Et puis, à un moment, ils se rencontrent, mais ils doivent fuir, tous les deux. C'est-à-dire, c'est en fait catastrophique, le Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim, parce que c'est un chant d'amour, de frustration permanente. C'est-à-dire, il y a le languissement, mais il n'y a pas de réalisation, de concrétisation de l'amour. Alors, finalement, à la fin du Cantique, il y a un verset consolateur. Il dit Hayoshevet Baganim, Haveri Makshivim les colères, Hashmiaini. Toi qui es installé dans les jardins, les amis entendent ta voix, écoute ta voix, fais-moi entendre. C'est-à-dire qu'enfin, tout s'est calmé, enfin, on est assis à la même table, on peut enfin se parler. Alors, ouvre la bouche, dis quelque chose, et qu'est-ce qu'elle dit ? Berah de dit, enfuis-toi, mon bien-aimé. Udme lecha litzvi o leofer ha'elim ressemble à un fan ou à un fils de biche, al hare besamim, sur les monts odoriférants. Odoriférants. Et alors, il y a un petit problème. C'est que, ils sont enfin prêts à se rencontrer, et ce qu'elle lui dit, c'est, va-t'en. C'est choquant, non ? Tout ce qu'elle a trouvé à dire. Alors, nos frères séfarades ont un minhag intéressant. C'est qu'après ce verset-là, on ajoute un verset. On revient sur le verset « Hayoshev et Baganim, Haveri, Makshivim, Lekole, Hashmiini ». C'est comme si, en fait, ça voulait dire que il a pris la fuite, mais il est tout de suite revenu. C'est-à-dire que ce qui se passe à partir de la fin du Shir HaShirim, c'est que les amoureux se rencontrent et ils se séparent pour peu de temps. Alors que pendant tout le temps du Olam Hazeh, si on veut, ce qui correspond à Olam Hazeh, Olam Haba, pendant tout le temps du Olam Hazeh, les amoureux se rencontrent très rarement, ils sont pour la plupart du temps séparés. Dans le Olam Haba, c'est le contraire, ils sont pour la plupart du temps ensemble, mais pour très peu de temps séparés. Et la question qui se pose, mais pourquoi les séparer ? Bichlal. Pourquoi ne seraient-ils pas tout le temps ensemble ? Ben parce qu'on est tout le temps ensemble, c'est insupportable. Essayer d'enlacer quelqu'un, il y a un moment où, ben bouge, tu me déranges. D'accord ? Ben oui. C'est-à-dire que dans le jeu de l'amour, il y a un renvoi pour permettre à l'amour de continuer. Et bien, c'est exactement ce qui se passe dans le schéma Kolenu. C'est-à-dire, pendant tout le temps de la prière jusqu'à schéma Kolenu, nous avons des manques cuisants qui nous font mal. Et alors, nous prions pour que ces manques soient remplis. De temps en temps, ils sont remplis. Mais ça revient. Par exemple, j'avais faim, j'ai mangé. Mais après, je vais encore avoir faim. Tandis que, quand on est dans un monde où tout est accompli, alors, on continue le jeu du manque pour pouvoir continuer la prière. Vous avez compris ? Le sentiment du manque va continuer, mais il sera un plaisir et pas une souffrance. Voilà, c'est ça le schéma Kolenu. Alors, ça c'est la lecture idéale du schéma Kolenu. Mais la lecture concrète du schéma Kolenu est beaucoup plus terre à terre. On fait dans le schéma Kolenu, on ajoute des demandes qui n'ont pas été mentionnées plus haut. Tout simplement. C'est-à-dire, j'ai demandé des tas de choses dans les bénédictions intermédiaires, oui, mais il y avait des choses que je n'ai pas encore demandé. Par exemple, que la réparation de mon moteur, hein, voilà. Comment ? important. Mais non, on peut dire que la réparation du moteur, elle fait partie de Birkat Hashanim, de la bénédiction pour la Parnassa. Donc, il y a, en fait, on peut tout ramener à ce qui a déjà été donné. Mais parfois, on a besoin de plus de précision. Voilà, j'ai un petit bobo à l'orteil gauche. Et ça me fait très mal. Ô maître du monde, peux-tu faire quelque chose, je t'en prie, pour que mon orteil gauche ne fasse pas trop mal. D'accord? Et alors, comme j'ai demandé ça dans Schéma Kolenu, rien que j'ai fini de dire ces mots-là, l'orteil gauche va bien. Mais, ah oui, alors, mes ribonos, j'ai encore autre chose. J'ai un auriculaire droit qui me fait des problèmes. Bon, ben alors ça, on va s'en occuper dans la prochaine prière. Bon, d'accord. Alors, il y a dans le Schéma Kolenu des demandes spécifiques. Mais pourquoi est-ce qu'on repousse la demande personnelle à Schéma Kolenu? Pourquoi ne pas le faire avant? La raison est très simple, c'est que quand je demande quelque chose individuellement, je risque de demander ce qu'il ne faut pas demander. Quand je demande au niveau du klal, de la collectivité, alors ce que je demande est toujours bon. Mais quand je le fais pour individuellement, peut-être que ce que moi je demande va faire du mal à la collectivité. Imaginez par exemple que vous demandez que telle personne soit guérie. Bidule, fils de bidule. De chose, par exemple. Hein. Bidule, chose. Bon, bidule, fils de chose, qu'il soit en bonne santé. Alors, Akadosh Baruch Hu, il écoute votre prière, et bidule, fils de chose, maintenant va mieux. Mais le problème, c'est que puisque bidule, fils de chose, va mieux, il va faire du mal à la collectivité. Il va aller mieux qu'il soit malade. Peut-être que c'était même mieux qu'il meure. Alors, une seconde. Donc, il y a un problème d'avoir une voie cachée individuelle. Mais, à partir du moment où on a traversé toutes les demandes collectives, alors nous sommes éduqués par ces demandes. Et donc notre volonté se transforme et on ne demande plus que des choses qu'il faut demander. Et donc nous sommes assurés, grâce au début de la prière, qu'en fin de prière, même les demandes personnelles s'insèrent dans le bien du klal. Et donc on sait ce qu'il faut demander. Oui ? Si, il faut faire des prières personnelles. Pourquoi il ne faudrait pas faire des prières personnelles? Le chidouche de la prière juive, c'est qu'Akadosh Baruch Hu s'intéresse même aux petits détails. C'est-à-dire, c'est pas simplement qu'il donne la santé au peuple d'Israël, il donne la santé à Bidule, fils de chose. Et ça, c'est très important de savoir que Bidule, fils de chose, est unique au monde. Et donc, il représente quelque chose d'irremplaçable dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais alors justement, je dois demander pour Bidule, fils de choses, dans la mesure où ça ne contredit pas le bien du klal. Comme j'ai déjà prié pour le klal, je sais que ma prière individuelle, maintenant, sera dans le bon sens. Et que si elle ne doit pas être faite, eh bien, elle ne sera pas prononcée. Maintenant, quand je dis Bidule, fils de choses, c'est un exemple. Ça peut très bien être, par exemple, Yosef ben Sprintze, par exemple. Ne nous attachez pas forcément à ces mots-là, c'est simplement un exemple, parmi tant d'autres. Oui. Pourquoi? Si, c'est notre calcul. Mais si, c'est notre calcul. Nous faisons plein de calculs sur Terre. Par exemple, j'investis dans telles actions à la bourse, dans celle-ci plutôt que celle-là. Je prie pour qu'un tel soit en bonne santé et je prie pour que l'autre meure. Ce sont des calculs que nous faisons, nous autres, des hommes. Nous sommes sur Terre, non pas pour faire confiance à Akadosh Baruch Hu, mais nous sommes sur Terre pour être fidèles à la confiance qu'Akadosh Baruch Hu met en nous. Donc nous avons le devoir de faire des calculs et de juger les gens. Il y a une expression pieuse bien connue, on n'est pas là pour juger les gens. C'est pas vrai, on est là pour juger les gens. La preuve, c'est que nous avons des tribunaux.
Ok, parce qu'ils sont formés pour ça, mais nous...
Oui, mais c'est quoi nous? Les tribunaux, ils sont faits d'hommes. Mais non, tu ne vas pas forcément juger des choses qui sont pénales et qui relèvent du tribunal. Mais ça veut dire, le fait même qu'il y ait des tribunaux chez les hommes, ça veut dire que tu es là pour juger du bien et du mal.
Alors, les tribunaux...
Non, le tribunal, il s'occupe d'une très petite fraction du bien et du mal, de ce qui est jugé par la loi. D'accord? Par exemple, d'après le tribunal, tu dois juger, tu es juge. Il y a quelqu'un qui vient devant le tribunal, il dit, Georges m'a volé un pain. Ah bon? C'est vrai, il a fait ça? Tu as des témoins? Oui, j'ai des témoins. Yossi et Doudou sont là, ils ont vu que Georges m'a volé un pain. A dit, oui, c'est vrai, vous avez vu, oui, nous l'avons vu. Et on demande à Georges, tu as volé? Oui, je reconnais que j'ai volé. Bon, que dit la loi? Non, pas du tout, pas à la prison. Il faut qu'il paye. Alors c'est combien? Bah, c'est 4 shekels 22. Ben voilà, tu fais ton chèque, 4 shekels 22, tu payes. Voilà. Et maintenant, ce qui n'est pas jugé dans cette histoire, c'est l'arrière-plan de l'histoire. Ben, pourquoi est-ce qu'il a volé ce pain? Ben, c'est parce qu'en fait, il n'a pas mangé depuis 3 jours, lui et ses enfants, et que le propriétaire du pain, lui, allait le jeter à la poubelle, à l'égout, ne serait-ce qu'en faisant à Georges, il lui dit, tu vois, tu n'auras pas ce pain bisque-bisquerage, je vais le jeter à l'égout, et tu n'en mangeras pas. Et comme ça, tu vas mourir de faim. Georges, dans un mouvement de désespoir, se précipite sur le pain, l'arrache aux mains du propriétaire, et dont je ne dirai même pas le nom, et il l'amène, il en mange un tout petit bout, il donne au reste à sa famille. Voilà. Alors, ça, ce n'est pas jugé par le tribunal. Tu diras au juge, mais enfin, vous connaissez très bien la situation. Oui, non, mais ça, ce n'est pas mon travail. Non, alors, le travail du juge, c'est de juger. Maintenant, le fait que le type est malheureux, ça, on va s'en occuper. D'accord? Et le fait que le propriétaire du pain est un salaud, on s'en occupera aussi. Mais pour l'instant, on va s'occuper de cette fraction-là. Donc, on voit très bien que le jugement du tribunal, ce n'est pas pour te libérer du jugement du bien et du mal. C'est une toute petite partie de la justice. Et donc, si on se dégage de l'obligation de juger le bien et le mal, en fait, c'est une démission, ça s'appelle, une démission morale. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous avons une tendance à ne pas vouloir juger du bien et du mal? C'est parce que nous vivons dans un monde de valeurs chrétiennes. Selon le christianisme et la morale chrétienne, la seule valeur morale, c'est la charité. Tandis que la justice, fondamentalement, ne fait pas partie des valeurs morales. Et donc, il faut avoir pitié du méchant, il faut être charitable envers lui, prier pour tout le monde, etc. Alors, il y a ici un déséquilibre dans ce qu'on appelle l'unité des valeurs, contre lequel le judaïsme proteste. Voilà. Bon. Oui.
Vous avez dit, comme on a été éduqué par le début,
oui.
On peut faire après une guerre
individuelle. Parfaitement.
Okay. Alors, pourquoi maintenant, à la fin de la Mida, après la Amida, on dit on a fait tout ça pour la construction du Beth Amidash. Alors pourquoi on ne fait pas avant la Amida?
Bon, je reprends ta question. La question a l'air effectivement assez profonde. Tu demandes, à la fin de la Amida, dans certains des textes de prière, pas dans tous les livres, enfin dans certains livres, il y a une prière pour la construction du Beth Amikdash. On devrait la faire avant, n'est-ce pas? C'est ta question, n'est-ce pas? C'est ta question. Oui, j'ai bien compris ta question. Alors je voudrais répondre à ta question. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. La réponse, c'est que on a demandé la construction du Beth Amikdash avant, dans Bonnei Yerushalayim et dans Etzemar David Avdera, on l'a demandé, dans Amar Zir Shir Nato Letzion, on l'a demandé. On l'a demandé avant la Amida. Pourquoi avant la Amida? Non, on a demandé. Donc, en fait, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on refait cette demande? Tu as compris la question? La vraie question, c'est pas pourquoi est-ce qu'on fait cette demande, pourquoi est-ce qu'on l'a fait deux fois? C'est ça la vraie question. À la deuxième question? Très bien. Eh bien, la réponse à cette deuxième question, c'est que toute la prière, la forme qu'elle a prise, parce que le Beth Amidash n'est pas construit. Donc on demande à ce que le Beth Amidash soit reconstruit pour qu'on puisse faire la prière d'une autre manière, associée au Korbanot et tout le reste. Ben justement, on a fini ce travail qui n'est pas à sa place, et on dit à Kadosh Baruch Hu, on veut le faire comme il faut. Pour l'instant, on ne peut pas faire comme il faut, alors reconstruis le Beth Amidash. Ou bien avant ou après, mais pas au milieu. D'accord? Bon, c'est-à-dire que quand on finit la prière, on revient à une réalité dans laquelle on se rend compte que le Beth Amikdash n'est pas construit, on dit « Oh là là, quelle catastrophe !» Maintenant, je reviens au schéma Kolenu. Dans le schéma Kolenu, on fait des prières individuelles dont on veut être sûr qu'elles correspondent au bien du klal, et c'est pour ça qu'on le fait à ce moment-là. Vous avez bien compris jusqu'à là?
Pourquoi la valeur suprême, c'est
pas la valeur suprême, c'est une des valeurs. et on ne veut pas la, on veut pas l'endommager. Non, elle n'est pas supérieure au bien individuel, c'est simplement dans, c'est une hiérarchie technique. C'est-à-dire, étant donné que le klal, pour que ça fonctionne, il faut mettre le klal au-dessus du prat, mais la finalité n'est ni le klal ni le prat, c'est l'unité de tout. Pour que ça fonctionne, c'est comme par exemple pour marcher. Il faut avancer un pied et après l'autre. En vérité, il faut avancer les deux pieds. Mais il faut choisir. Et dans la réalité, donc, on va commencer soit par le pied droit, soit par le pied gauche. On n'avancera pas les deux pieds ensemble, à moins de vouloir sauter à pied joint, ce qui est assez difficile. Donc, pour des raisons, si tu veux, de fonctionnement du bien, du klal et du prat, alors on met d'abord le klal au-dessus du prat, et le klal donc va effacer le prat, et après le prat va retrouver sa place, il va se fusionner avec le klal. D'accord ? Chez qui? Chez? En Union soviétique, pas du tout. En Union soviétique, ce qu'il y avait, il n'y avait que le collectif. L'individu n'a aucun sens selon la pensée soviétique. D'accord? Alors, c'est pas de ça dont il est question dans le judaïsme. Le judaïsme, justement, lui, il a un autre système. Il y a un autre système dans le judaïsme, c'est ce qu'on appelle klal shehutzach lifrat et prat shehutzach lichlal. D'accord? Mais non, il y a simple. Quand on met parfois le klal en avant, c'est pas parce que le prat n'est pas important. Mais c'est pour pouvoir avancer. Et donc c'est comme si on te demande de choisir, par exemple, quel pied mettre en avant. Il faudrait bien que tu choisisses l'un des deux. Voilà, c'est tout. Bon, alors continuons. Ça n'a rien à voir avec l'Union soviétique. C'est de la démagogie de présenter le judaïsme comme un collectivisme à la soviétique ou au fascisme. Comment ? Oui, mais attention, j'ai expliqué que la hiérarchie peut être une technique. C'est comme par exemple, quand un... est-ce qu'il est bon qu'un enfant comprenne la raison pour laquelle son père lui a dit de faire telle et telle chose? En vérité, oui. Mais il est parfois très important qu'un gosse entende la phrase géniale « parce que je te l'ai dit ». Cette phrase est très importante parce qu'elle crée une colonne vertébrale qu'on appelle l'autorité. Maintenant, une autorité, quand elle existe, elle permet de se mesurer par rapport à elle. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je la rejette? Mais si, à chaque fois, le père doit expliquer, donc, il y aura une condition. C'est-à-dire, tu ne feras que si tu comprends. Et donc, l'enfant aura perdu le bienfait que donne l'autorité. Et donc, c'est important, parfois, de ne pas expliquer. C'est pas parce qu'on ne veut pas que l'enfant comprenne. C'est pour qu'il puisse vraiment comprendre qu'il faut qu'il ne comprenne pas. T'as compris? Alors c'est pas, donc on te met une préséance au collectif par rapport à l'individu, c'est pas parce que l'individu n'est pas important, au contraire, il est important pour l'individu parfois d'être effacé pour retrouver la plénitude de son individualité. Voilà, je crois que nous en avons assez dit pour l'instant là-dessus. Bon, nous allons donc continuer. Donc schéma Kolenu. Alors vous avez ici différentes versions. Vous avez le schéma Kolenu tout court, vous avez schéma Kolenu Avarachman, vous avez parfois Avarachman schéma Kolenu. Ce sont différentes versions, séfarades, ashkénazes, sfaradis, etc., yéménites, vous avez un peu de tout. En tout cas, ce qui est, disons, commun, c'est qu'il y a une demande du schéma Kolenu, que notre voix soit entendue. Et alors, il y a une différence, quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas? Ah bon. Alors, il y a une différence entre schéma Kolenu et schéma bakashatenu, tefilatenu. Quand il y a une tefila, une bakasha, c'est une prière ou une demande, c'est spécifié. Alors, qu'est-ce que tu demandes? Ben voilà, je demande... comment? Une? J'ai rien compris. De gagner au loto. Oui, ou bien moi j'avais pensé à autre chose. J'avais pensé à... Non. Un sandwich avec une saucisse de hot dog et de la moutarde. Voilà, bon. Alors, bon, c'est que j'ai pensé à ça. Donc, voilà, donc... Mais enfin, toutes les possibilités sont ouvertes. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs auxquelles on n'a pas pensé ni toi ni moi, mais qui peuvent entrer dans le détail de la prière. Donc, je demande telle et telle chose, n'est-ce pas? Mais derrière le détail des choses que je demande, oui, c'est la bakasha ou la tefila. Mais derrière le détail des choses que je demande, il y a ma voix. Et la voix, elle est indifférenciée, elle précède le détail. C'est comme Et, or, effectivement, quand on n'a plus de détails à demander à Kadosh Baruch Hu, alors on demande qu'il entende notre voix. C'est comme, par exemple, quand quelqu'un veut parler avec une autre personne. Alors, qu'est-ce que tu as à lui demander? Ben, rien, mais j'aime entendre le timbre de sa voix. Donc, peu importe ce qu'il va dire. Mais j'aime sa voix. Donc, schéma, collez-nous, on demande à ce qu'Akadosh Baruch Hu entende notre voix. C'est la réjouissance de la rencontre. Hachem Eloheinu, Avarachaman. Le mot Rachaman, qui veut dire miséricordieux, correspond à... C'est la condition même de la prière. C'est-à-dire, la prière n'est possible que s'il y a ce qu'on appelle Midat HaRachamim. C'est pour ça qu'en araméen, la prière se dit... Comment est-ce qu'on dit une prière en araméen? On dit soit Tselota, soit Rahame. Rahame. Rahame, c'est comme Rahamim en hébreu. C'est-à-dire, Ba'e Rahame, il a fait la prière. Ou Ba'e Bitzlote, il a demandé dans sa prière. D'accord? Tselota. D'ailleurs, vous savez qu'en Afrique du Nord, parfois les synagogues étaient appelées Sla, l'endroit où on fait la prière. Vous ne connaissez pas ça? C'est un peu là? Sla. 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 Non, pas là. Sla. Sla. Non, ça n'a rien à voir. Rahme. Rahme. Et la miséricorde. On voit parce que dans la prière, il y a une modification de l'ordre du monde. L'ordre du monde, c'est le din. La modification de l'ordre du monde, c'est rachamim. Donc, shema koleno, hachem elenu, avarachaman. Ou bien, avarachaman, shema koleno. D'accord? Vous avez donc, comme on l'a dit, plusieurs versions. Rachem aleno. Vekabel ou rachamim. Vous voyez que, je prends ici dans le texte séfarad, le terme de rachamim, la racine racham, revient sempiternellement. Vekabel ou rachamim. Alors là vient ici un mot un peu difficile, Uveratson. Et tefilaten. Ça veut dire quoi, Beratson? Le mot Ratson ici veut dire agrément. Oui, oui. C'est-à-dire le mot, en hébreu, dans l'hébreu biblique, le mot Ratson ne veut pas dire volonté. Il veut dire plus précisément apaisement. Être agréé. C'est ça? En hébreu plus tardif, il y a un mot qui ressemble, c'est Ritsouï. J'ai fâché quelqu'un, je l'ai vexé, et après, je le réconcilie. Ça s'appelle « ani meratze oto ». Dans la Mishnah, dans Avot, « noach lichos vekache lirtzot ». Il est facile à se mettre en colère et difficile à s'apaiser. Donc le mot « ratzon » signifie « apaisement ». D'ailleurs, vous avez qu'à voir, il y a plusieurs endroits dans Rashi, dans son commentaire sur la Torah, où il dit « Kol leshon ratson sheba mikra, tout endroit où on dit ratson dans l'écriture, apishmint belaz, apaisement en français. Apishmint. D'ailleurs, en anglais, vous avez quelque chose qui ressemble appeasement. Ça ressemble plus à l'ancien français que le français moderne. Donc il y a cette idée d'apaisement. Alors, Bekayul Rahamim ouve ratson reçoit avec apaisement notre prière. Et tefilatenu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un apaisement? Un apaisement, ça veut dire que on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il y ait une correspondance entre notre volonté et sa volonté. C'est ça le ratson. Vous avez compris? Bon. Kiel shomer tefilot v'tachanuni mata. Je prends ici le texte séfarade, il y a d'autres versions. Mais enfin, c'est à peu près la même chose dans les différentes versions. Comment c'est chez toi, là? Hein? Je savais pas que mes cours t'intéressaient pas. Bon, alors ouais. Oui, après, Vekabel. Oui, qui? Ata. Bon, exactement, c'est le même texte que chez les Sfaradim à peu près. Qui est le chômé à Tefilot et Tachanim Ata? Là, c'est Sfarad. C'est pas le texte des Sfaradim, c'est le texte des Sfarad. Sfarad, ça veut dire celui des Hasidim de Pologne. D'accord. Donc, quel chomer à tefilot v'etachanuni mata, car tu es un Dieu qui entend les prières et les suppliques. Elle signifie toujours le Dieu abstrait. Tachanunim, et pourtant, bien qu'étant abstrait, il entend. Chomer à tefilot, tachanunim ata. Umilefanecha. Alors bon, il y a ici plein de prières qui ont été introduites dans les différents sidourim sur la parnassa, le pardon, etc., un tas de choses comme ça. Tout ce que vous avez demandé. Chez nos frères Ashkenaz, on introduit une prière pour la pluie quand il manque de la pluie. cette prière chez nos frères séfarades n'est pas récitée pour une raison très simple, c'est qu'elle est déjà récitée dans Baruch Aleinu. Mais c'est un texte plus long pour l'hiver, les séfaradim ont un texte plus long. Ce texte plus long n'est pas utilisé par les ashkenazim, à moins qu'il y ait la sécheresse, alors on le met dans Shema Koleinu. Ce qui d'ailleurs, du point de vue de la halakha pure et simple, est problématique, parce que ça contredit les preuves contre ça amenées par le Roche dans ses responsables, mais peu importe, le minhag d'Israël est plus important que les arguments, que les kouchiotes, même des gdolei Israël. Bon, donc, Umilefanecha Malkenu Rekam Altishivenu, de devant toi, notre roi ne nous renvoie pas vide. Vous avez remarqué qu'on est passé ici de Av à Meler. Av, c'est le père. Meler, c'est le roi. Ce qui est la différence, c'est quand on est par rapport au père, c'est Midat Arachamim. Quand on est face à un roi, c'est Midat Adin. Tout dépend du mérite. D'ailleurs, dans la prière de Rosh Hashanah, on demande, après chaque sonnerie du chauffard, que Kadosh Baruch Hu veuille nous prendre en considération Im Kebanim, Im Ka'avadim. Soit que nous soyons des fils, soit que nous soyons des serviteurs, des esclaves. Im Kebanim, Rachamenu Kirachem Avalbanim. Si tu nous considères comme des fils, alors prends-nous en pitié comme un père prend en pitié ses enfants. Ve'im im ka'avadim, et si nous sommes comme des esclaves, aïnenu lechateluyot achetechonenu. Nos yeux sont dirigés vers toi jusqu'à ce que tu nous prennes en grâce. Et totsi la'or mishpatenu kadosh, et que tu amènes à la lumière notre décret, toi qui es saint. Donc, alors, dans la prière, on demande deux choses. Soit on est des fils, soit on est des esclaves. Soit tu es notre père, soit tu es notre roi. Si tu es notre roi, alors il y a des raisons d'être sous le coup de la rigueur, de la midatadine. Vous avez dit, Milfanecha Malkenu Rekam Altishivenu. Même si tu es notre roi, ne nous renvoie pas vide. Honenu, dans ce cas-là, prends-nous en grâce. C'est-à-dire, parfois on mérite. Alors c'est pas la grâce. Parfois on ne mérite pas, alors c'est la grâce. Va'anenu. Alors ne faites pas l'erreur de dire va'anenu, qui veut dire afflige-nous. Va'anenu, c'est dire réponds-nous. Il y a une différence aussi avec un dagesh ou sans dagesh. Comment? À Kippour, qui c'est à Kippour? La prière de anenu. Alors il y a l'erreur, tous les gosses comme ça, tout contents, anenu, c'est une erreur, ça veut dire afflige-nous, persécute-nous. Pas du tout. Anenu, d'accord, faut pas insister sur le pas anenu, mais anenu, d'accord. Voilà, donc il faut faire attention de ne pas insister sur le noun, d'accord. Ouais. Oui. Maintenant, faites attention également de ne pas dire l'anerie qui consiste à dire hanenu, c'est honenu, c'est un kamatz katan, n'est-ce pas? Honenu. Vous voyez que c'est écrit avec un kamatz, mais c'est un kamatz katan qui se prononce o. D'accord. Non, justement, les Ashkenazim ont plus de problèmes avec ça que les Sfaradis, pour une raison très simple. C'est que nos frères Ashkenazes ont décidé très souvent d'adopter la prononciation israélienne, qui est séfarade fondamentalement. Et donc, ils sont passés du Kamatz qui se prononce O au Kamatz qui se prononce soit A, soit O. Et comme ils n'ont pas de tradition par rapport à ça, dès qu'ils voient un Kamatz, ils disent A. J'ai entendu un très grand rabbin Ashkenaz dire Chachma, pour dire la sagesse, alors qu'il veut dire en vérité Chochma. Et comme il pensait qu'il fallait parler à la manière israélienne, alors il a dit Chachma, ce qui est une erreur. Il faut dire Chochma. Donc Chonenu, Va'anenu. Ah non, Mechal c'est autre chose. Mechal c'est avec un patach là-bas. Oui, il y a deux. Dans la version séfarade, on met Mechol Lanu. Et dans la version ashkenaz, on met Mechal Lanu. Mais c'est un patach. Le patach se prononce A. C'est donc très bien. Ils ont raison. Pourquoi les Sfaradim disent Mechol? Ah ben ce sont deux traditions différentes, parce qu'il y a dans l'hébreu, il y a différentes manières de prononcer le binyan kal. C'est ce qu'on appelle en grammaire les sept binyanim. En vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, tu dis etranen, etranan. C'est pas la même chose. C'est un etpael et un etpal. Donc il y a différentes versions. Ce qui donne du travail de plus aux grammairiens. Et leur permet de gagner leur vie. Chonenu, va'anenu, prends-nous en grâce et réponds-nous, ou shma tefilatenu, entend notre prière. Et alors là, on introduit le anenu dans les jours de jeûne. Jour de jeûne. Dans les jours de jeûne, il y a toute une prière, la prière de anenu. Hein? Anenu avim akinu. Et quand je dis que les Ashkenazim introduisent la prière sur la pluie, ça commence par va anenu. Va anenu, boréola. Voilà. Qui attache au mien? Alors, car tu entends. Alors, il y a ici différentes versions. Il y a la version de nos frères séfarades, c'est Tefilat Kolpe, la prière de toute bouche. La version de nos frères Ashkenaz, c'est Tefilat Amcha Israël, ou Tefilat Amcha Israël Virachamim, la prière de ton peuple Israël, parfois on rajoute en miséricorde. Et puis il y a la version Sfard, qui met les deux à la fois, Tefilat Kolpe Amcha Israël Virachamim. Alors, je veux tout de suite que la version Sfard est une erreur. D'ailleurs, dans le Noussar de Chabad, ça a été rectifié. Pourquoi c'est né cette erreur? Cette erreur parce que chez certains imprimeurs, on a mis les deux versions, une entre parenthèses et l'autre pas entre parenthèses. Par exemple, il y avait écrit Tefilat Kolpe et entre parenthèses Amcha Israël Berachamim. Pour dire que certains disent Kolpe, parfois certains disent Amcha Israël. Et puis par la suite, il y a des bons juifs qui ont dit pourquoi ne pas tout dire? Alors ils ont tout dit, ils ont réimprimé le texte sans mettre les parenthèses, alors ça donnait Kolpe Amcha Israël. Ce qui est une erreur. Ce Noussar n'existe pas. Mais enfin, il faut comprendre quelle est la différence entre les deux Noussarim.
C'est quand même éditeurs.
Les éditeurs, ils se mêlent de tout. Les éditeurs se mêlent de tout.
Ouais, c'est pas des vrais éditeurs.
Non, les éditeurs sont des vrais éditeurs. Ils font beaucoup d'argent. Aujourd'hui, moins. J'ai un ami qui est éditeur. Il me dit qu'effectivement, aujourd'hui, l'édition est en pleine chute. Ne serait-ce que parce que n'importe qui aujourd'hui peut imprimer. Sur son imprimante, passer sur internet, etc. Alors aujourd'hui, les livres, c'est pas un grand truc. Donc si vous voulez gagner de l'argent en faisant des livres, alors vous êtes à côté de la plaque. D'accord? Vous êtes ou à côté de vos pompes, peu importe. En tout cas, ça ne se fait plus, quoi, d'écrire des livres. En tout cas, pas pour gagner de l'argent. Et donc, je reprends. C'est quoi cette histoire de Tefilat Kolpe et Tefilat Amcha Israël? Alors, on pourrait penser que la prière séfarade est cosmopolite et la prière ashkénaze est particulariste. Pourquoi? Parce que dans la prière ashkénaze, on dit Amcha Israël, la voix de ton peuple Israël, ce qui suppose pas la voix des autres. Et chez les sfarandim, on dit la voix de toute bouche, donc ça comprend également les autres. En fait, c'est une erreur. Ce n'est pas vrai, cette histoire, pour une raison très simple. C'est que Israël, c'est ça la bouche du monde. Oui, c'est-à-dire, quand Israël fait la prière, il fait la prière parce qu'il est la bouche du monde entier. De même que, par exemple, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un. Par exemple, voilà, je lui dis, voilà, j'ai faim. Tiens, pourquoi tu as faim? Tu pensais au hot dog de tout à l'heure, ou bien... Le hot dog... Oui, je préfère la mayonnaise, il m'a dit. En tout cas, donc... Alors, quand il dit, hein, j'ai faim, mais qui c'est qui devrait dire ça? Ben non, l'estomac devrait dire ça. La bouche, elle n'a pas faim, c'est l'estomac qu'il a. Ou même par exemple, je t'entends très mal, hein, je suis au téléphone, je t'entends très mal. Qui c'est qui devrait dire ça? C'est l'oreille qui devrait dire ça. Pourquoi c'est la bouche qui le dit? C'est-à-dire que le jeu. Donc je, c'est tout moi, et ça s'exprime. La partie de moi qui dit ce qu'elle a à dire, c'est la bouche. Mais elle le dit au nom de tout le monde. Donc il y a... Enfin, elle dit au nom de toutes les parties de mon être. Et il y a également dans le monde entier une bouche du monde. La bouche du monde, c'est Israël. Et donc, quand tu entends la prière de toute bouche, colpé, en fait, ça suppose Amcha Israël. Donc, il n'y a pas de véritable controverse entre les deux Noussachim. En fait, c'est la même chose. Oui.
Moi, quand je prie, la santé, je peux pas la santé du monde, donc des goyim aussi.
Tu pries pour la santé, la tienne, parfois. Pour la santé de ta cousine, la santé du peuple d'Israël, la santé du monde entier et la santé de la Shrina. Ce sont des cercles concentriques. Ça dépend qui tu es. Par exemple, dans la prière sur la maladie, on demande au faire holé amo Israël, parce que tu guéris les malades de son peuple, qui guérit les malades de son peuple Israël. Et alors les autres, ben les autres s'en occupent pas. Ah bon, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils vivent? Non, ça veut dire qu'il est important que les enfants d'Israël soient en bonne santé, parce que c'est ça qui amènera la santé au monde. Et que ce n'est pas toujours bon de prier pour un goy, ça dépend si c'est un goy ennemi ou un goy ami. Si c'est un goy ennemi, il vaut mieux qu'il meure. Si c'est un goy ami, il vaut mieux qu'il vive. Et si c'est un juif ennemi, ben, en général, on n'est pas là pour le juger. Voilà. Bon. Oui. Comment? J'ai rien compris. Si c'est un faux ami, alors c'est une fausse prière. Voilà. Bon, c'est pour ça que c'est une prière qui ne voudra pas une sapek, enfin un safek. Et donc je continue. Qui attache au meat ivilat kolpe, Baruch ata Hashem, source de bénédiction tu es, Hashem. Shomé Atefila, qui entend la prière. C'est-à-dire, tu as entendu la prière avant même qu'elle ne soit prononcée. C'est un verset comme ça. Ikraou Vene, Vani Aene. Avant qu'il ne m'appelle, j'ai déjà répondu. Mais ça veut dire que, pourquoi je fais la prière? Ben, pour faire correspondre ma volonté à la sienne. C'est-à-dire, lui, il voulait que je guérisse. Mais, moi, je ne voulais pas tellement. J'ai prié pour, il y a correspondance de ma volonté avec la sienne, et donc la guérison peut intervenir. Voilà. C'est plus clair. Alors donc, jusque-là, nous avons fini. Non, on n'a pas fini le cours. Désolé pour toi, on n'a pas fini le cours. Mais on a fini les bénédictions des demandes. Et puis après arrivent trois autres bénédictions. Alors, elles sont, en principe, on dit des bénédictions de remerciement, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il faut faire des bénédictions de remerciement? Parce que ce n'est pas poli de demander quelque chose sans remercier. Mais, quoi? Une fois qu'on a reçu. Oui, bah, on a reçu. Une fois qu'on a demandé, on a reçu. Oui, oui. Par exemple, tu demandes que un tel, par exemple, si c'est automatique. Par exemple, imagine par exemple que je prie pour quelqu'un qui est malade. Il est malade. Je prie pour lui, il guérit. Oui. Sinon, c'est pas vraiment une prière. C'est quand ça marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas chez nous. C'est une kouchia. Pourquoi est-ce que j'ai prié que ça n'a pas marché? Non, c'est ça que suppose la prière. Je ne fais pas la prière si c'est un jeu. Je fais la prière parce que c'est sérieux. Et donc, si je prie, il doit guérir. S'il n'a pas guéri, c'est qu'il y a un problème. C'est pas s'il a guéri que c'est un miracle. Pourquoi? Oui, mais c'est supposé être exaucé. Comment tu sais? Certainement, il va mieux. Parce que même s'il ne va pas mieux, ta prière, si elle a été vraiment une prière, a servi à quelque chose. Elle a fait avancer quelque chose dans le monde. Alors tu n'as pas vu toujours de résultat dans l'immédiat, mais si c'est vraiment une prière, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Par exemple, nos ancêtres ont prié pendant 1880 ans. C'est fini là-bas? Nos ancêtres ont prié pendant 1880 ans pour que nous revenions en Eretz Israël. Alors, les générations passaient, et quelqu'un disait, j'ai prié, ça n'a pas marché. Alors, on disait, mon fils continue quand même. Continue. Des générations passent, il prie, ça marche pas. Et puis après, ça a marché. En 1948, ça a marché. Mais ça a marché grâce à quoi? À toutes les prières qui ont été prononcées pendant les 1880 ans. C'est-à-dire, il y a une accumulation de l'effet. C'est ce que dit la Torah, en tout cas. Et la Torah annonce que la prière est toujours exaucée. Donc ça a marché. C'est donc vérifiable sur la base de l'autorité de la Torah. D'accord? On n'est pas ici en train de prouver la véracité du judaïsme, ce n'est pas le sujet de ce cours. D'accord? Non, il y a d'autres cours dans lesquels on peut parler de ça. Mais ce dont nous parlons maintenant, qu'est-ce que dit la Torah? La Torah dit que ça marche. Et effectivement, nous avons le cas des Tanaïm, certains Tanaïm, dont nous savons que la prière était exaucée. Par exemple, il y a une histoire absolument incroyable qui est racontée par Flavius Joseph. Lors du siège de Jérusalem par Horkanos. C'est qui c'est Horkanos? Oui, de Yanaï, d'Alexandre Janet. C'était lui, il était. Oui, d'Aristobulos, d'accord? Aristobule, on dit en français, et Jean Hyrcan. En tout cas, donc, Horkanos et Aristobulos se faisaient la guerre. Et Flavius Joseph raconte une histoire absolument incroyable, c'est que. Quand les combats ont commencé, Choni Amahagel s'est caché. Choni Amahagel, c'était celui dont il est raconté dans la Mishnah qu'il faisait tomber la pluie en se mettant dans un cercle. D'accord? Il se mettait dans un cercle, il disait à quel jour rouge, je ne bouge pas d'ici tant qu'il n'y a pas la pluie. Bon, alors la pluie tombe. D'accord? Et, bon, il y a plus de détails dans le récit tel qu'il est raconté dans le Ta'anit, mais enfin, et Flavius Joseph connaissait cette histoire, il raconte que le fameux Choni en question, quand il a vu que les combats commençaient, a pris la fuite, il s'est caché. Mais il a été déniché par les soldats de Horkanos, qui lui ont dit, puisque ta prière est toujours exaucée, alors tu vas prier pour que ceux qui sont là-bas encerclés dans la ville perdre la bataille. Il a refusé, ils l'ont obligé. Comment ils l'ont obligé, c'est pas très clair. En tout cas, ils l'ont obligé, probablement en lui tordant le poignet. Et alors il a dit, maître du monde, étant donné que ceux qui sont ici sont les fils de ton peuple, et que ceux qui sont derrière la muraille sont tes prêtres, je te demande que tu ne répondes à, que tu n'exauces ni la prière de ceux-ci, ni de ceux-là. Ils l'ont tué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Mais qui c'est qui a gagné finalement? Les Romains. Les Romains sont arrivés et ils ont dit ni toi ni toi, et ils ont transformé la Judée en province romaine. C'est-à-dire que la prière, d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a des prières qui parfois malheureusement sont exaucées. Faire attention à ce qu'on prie. Parce que Roni, il sait que ce qu'il demande sera fait. Et donc évidemment, ben, c'est les Romains qui pompaient. Enfin non, qui ont envoyé Pompée. Pompée qui a pris le pouvoir, n'est-ce pas? Bon, et donc, oui, alors c'est ça l'histoire de la prière. La prière, ça marche. Mais le problème, donc, puisque ça marche, il faut remercier. Une fois qu'on a prié, ben, il faut remercier. Hein? Si. On s'en fout que ce soit invérifiable. C'est, le sujet, non, le sujet ici n'est pas... Non, attention, non. Le sujet ici n'est pas... Non, le sujet ici n'est pas de savoir si le judaïsme est vrai ou pas. Nous étudions qu'est-ce que dit le judaïsme. Maintenant, ce que j'ai amené ici, ce sont des exemples cités par la tradition d'Israël, comme quoi on considère que celui qui sait faire la prière sait également être exaucé. C'est-à-dire, si la prière n'est pas exaucée, c'est qu'il y a un problème. Par exemple, le cas de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu demande à rentrer en Eretz Israël. Il dit « Va'et Hanan el Hashem ba'etai » et j'ai présenté ma demande devant Dieu en ce temps-là. Et le mot « Va'et Hanan » c'est un temps gématria, combien ? 515, n'est-ce pas ? 515. Ne pas confondre avec Marignan, qui est 1515, mais c'est 515. Et la Guémara dit que Moshe a fait 515 prières pour entrer en Eretz Israël, comme va être Hanan, et que s'il en avait fait une de plus, il serait rentré. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne fais pas plus de prières. Parce que, pour des raisons qui concernent Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas que Moshe rentre en Eretz Israël, ça serait très grave s'il entrait. Et donc il lui dit, fais-moi une tova, je te demande de ne pas prier. Parce que si tu pries, je serai bien obligé de faire ce que tu demandes. Et ça sera une catastrophe. Vous voyez donc que, bah oui, parce que Moshe s'y fait une prière. C'est quoi la prière de Moshe? C'est qu'il met en évidence la volonté du Créateur. Il y a 515 modalités de volonté que Moshe a mis en évidence qui justifient son entrée en Eretz Israël. Il y a une 516e qui, si elle se manifeste, eh bien, c'est la volonté de Dieu. Donc Moshe rentrera. Mais il ne faut pas que cette volonté s'exprime, parce qu'il y a encore un autre calcul qui est que l'entrée de Moshe en Eretz Israël à cette époque peut causer du dommage à Israël. Donc il ne faut pas qu'il fasse cette prière. Parce que s'il l'a fait, cette prière sera malheureusement exaucée. Oui, c'est lui qui reste le patron. Le problème, c'est qu'à Kazuru, il a beaucoup de projets. Et comme il a beaucoup de projets, alors, ça peut se passer à travers le fait que Moshe entre en Eretz Israël. Mais le prix à payer... Est... 516, oui. Si, parce qu'il voudra qu'il rentre. C'est-à-dire, s'il fait 516 prières, Dieu voudra que Moshe rentre en Eretz Israël. Il ne voulait pas encore. Il avait 516 raisons de faire entrer Moshe. Et oui, Moshe fait 515 prières. Donc, il est sur le point de gagner. C'est-à-dire, puisqu'il va prouver à Kadosh Baruch Hu, tu vois que tu veux. À Kadosh Baruch Hu dit, c'est vrai que je veux, mais je ne veux pas qu'on le sache. Oui, c'est-à-dire, c'est ça qui fait la prière. La prière signifie qu'il met en évidence la volonté de Dieu. C'est par exemple quand je prie pour être guéri. Je suis malade et je prie pour être guéri. Qu'est-ce que je fais? Je ne viens pas convaincre Akadosh Baruch Hu de changer d'avis. Je viens révéler sa volonté que je sois en bonne santé. Or, il le voulait avant ma prière. Mais moi, je ne le voulais pas encore, parce qu'il n'y avait pas encore de correspondance entre ma volonté et la sienne. Donc, j'ai fait la prière pour qu'il y ait correspondance, on pourrait dire, identité entre ma volonté et la sienne. Et à partir de ce moment-là, plus rien n'empêche ma guérison. Si ce passe rien, c'est que je n'ai pas prié. Donc je suis un imbécile, je ne sais pas faire la prière. Oui ? Oui. Et alors? C'est l'histoire du type qui a acheté un billet de loterie, pour revenir à ton doctorat tout à l'heure. Oui, et les anges disent à Kadosh Baruch Hu, mais enfin, Ribono Shelam, tu vois bien qu'il mérite. Alors pourquoi tu ne le fais pas gagner à la loterie? D'ailleurs, parce qu'il n'a pas acheté de billet.
Oui.
Quoi? Il fait quoi? Sa maison, elle brûle, oui, alors? Oui, alors c'était bien que ça brûle. Mais non, peut-être qu'il va prier, que sa prière sera exaucée et que l'écurie ne brûlera pas. Oui. L'écurie ou bien le château ne brûlera pas. Mais... bien sûr. C'est-à-dire, il y a plusieurs trajectoires, cette volonté. C'est-à-dire, on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a des projets, et il y a différentes trajectoires, plusieurs orbites qui permettent d'y arriver. Exactement. Entre autres, la prière de l'homme est un des paramètres. Pourquoi? Mais j'ai un libre arbitre pour savoir dans quelle voie me diriger. Exactement. Voilà. Donc c'est ça le schéma Koleno.
Bon.
Parce que toi, tu ne voulais pas être en bonne santé. Maintenant, on avait étudié, je crois, tout ce qui concerne... on avait étudié quand on avait commencé l'introduction à la tefila, dans les premiers cours, qui est très important, les cours de théorie sur la tefila. C'est très important, les premiers cours. Nous avons étudié quelle est la signification de la prière, et qu'est-ce que c'est cette histoire de nos matriarches qui étaient stériles, parce qu'à deux jours, vous voulez entendre leur tefila, etc. Alors ça serait un sujet peut-être auquel il faudrait peut-être un petit peu revenir. Mais ce n'est pas possible dans le temps qui nous est imparti, étant donné que c'est bientôt les informations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.